pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve.
Oula, qu'est-ce qu'il y a ? On se retrouve pour le dernier dimanche d'octobre sur Curiosity, une émission gentiment accueillie par la prime. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes alors en octobre, le mois des feuilles rouges, oranges et jaunes, l'automne, le retour du froid, des stalactites dans le nez et des pulls thermolactiles. Ce mois-ci, nous accueillons à nouveau pour un deuxième épisode Séverine Falkovitch pour son ouvrage qui s'intitule « Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations » aux éditions Erol. Mais en attendant, je ne sais pas vous, mais moi j'ai froid et j'ai besoin de chaleur. On s'écoute Summer Boy de Lady Gaga, une chanson assez méconnue d'un de ses tout premiers albums de 2008, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était The Fame. Elle la rejoue d'ailleurs en concert lors de son Mayhem Ball à Paris en novembre. Et moi, je kiffe à fond. Voilà, c'est dit. Allez, à tout de suite. On se retrouve alors après cette petite interlude musicale, ce petit amuse-bouche en guise d'entrée aujourd'hui pour la suite de l'épisode 1 à propos d'un ouvrage, celui de Séverine Falkovitch, maître de conférences en psychologie sociale à l'université de Aix-en-Provence. Elle est également psychologue et ses champs de recherche touchent à la manipulation comportementale et l'influence sociale. Elle est également très présente sur les réseaux sociaux pour vulgariser les questions liées à l'esprit critique. Alors ce livre, Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations, est paru en 2023 aux éditions Erol. Séverine est également autrice de Complotisme et manipulation, petit guide pour déjouer les fausses croyances, fake news et autres fadaises avec un co-auteur, Alexander Samuel. Et ce dernier livre est paru cette année. Donc cet entretien est la suite de notre échange qui a duré assez longtemps et que j'ai décidé de diviser en deux épisodes. Pour reprendre cet échange, donc, nous parlons de l'enjeu de l'éducation aux médias. Ce que nous proposons d'ailleurs dans les locaux de Radio Primitive, radio à vocation d'éducation populaire. Alors Séverine, quel est réellement l'enjeu de l'éducation aux médias par rapport aux fake news et est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans ces pratiques ?
Alors une éducation aux médias est primordiale et par exemple les enfants ont des cours d'éducation aux médias. Bon, mais ceci dit, dans le cadre de ces cours, on va beaucoup leur parler des fake news, enfin, et de la façon dont ils doivent essayer de lutter contre la désinformation. Ceci dit, tels que ces cours sont proposés actuellement, ils ne suffisent pas. Les enfants disposent déjà d'une éducation aux médias, mais celle-ci actuellement est centrée sur les fake news et sur une partie seulement des recommandations que nous devrions suivre pour être capable de bien juger du statut d'une information. Ça ne suffit pas. Il est nécessaire d'ajouter à ce dont les enfants bénéficient déjà des éléments qui leur permettent d'appréhender de façon explicite la façon dont nous traitons l'information. Et donc, on a besoin d'une formation bien plus large à l'esprit critique. Par exemple, les inciter à s'engager dans un traitement analytique de l'information. Ça, c'est ce qui, en ce qui concerne les enfants. En ce qui concerne le reste de la population, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'effectivement, les gens doivent entrer dans un processus d'auto-formation parce que on n'a pas toujours la possibilité d'avoir accès de nouveau à de l'enseignement, un enseignement organisé. Mais sur les réseaux sociaux, sur Internet, il existe des ressources qui permettent de se pencher sur ce que c'est que l'esprit critique. Il y a des bouquins, le mien donc en fait partie.
Il y a énormément de ressources dans ce bouquin, oui.
Oui, mais il n'y a pas que mon bouquin aussi. Il y a plein d'autres ressources. Et donc se pencher sur la question en se disant que malheureusement l'éducation nationale qui aurait dû se charger de notre formation à tous gratuitement et de façon organisée, jusqu'à présent ne s'est pas donné les moyens de remplir pleinement sa mission. Et donc là, avec cette flambée de la désinformation. On est un peu en urgence pour essayer de faire face à tout ça. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut s'engager actuellement, chacun d'entre nous, faudrait s'engager dans une démarche active pour venir se former à l'esprit critique.
Alors justement, pour rebondir là-dessus, il y avait un chiffre qui m'avait vraiment interpellé dans Au cœur de l'esprit critique. Donc je rappelle la référence de l'ouvrage. C'est une enquête IFOP réalisée en France en janvier 2019 qui révèle que 28% des 18-24 ans adhèrent actuellement à au moins 5 théories du complot. C'est un chiffre alarmant en effet. Est-ce que, on parlait d'éducation ? En quoi l'éducation peut être à la fois nous prémunir de ça ou est-ce que finalement l'éducation est un bouclier contre ça et jusqu'où en fait ?
Alors tout d'abord ouais donc on a un grand nombre de personnes d'enfants aussi qui qui adhèrent à des théories du complot ou alors qui sont susceptibles d'adhérer à de fausses croyances complotistes. Je pense qu'il vaut mieux ne pas les regarder comme une catégorie bien constituée, parce qu'en réalité, nous sommes tous susceptibles d'adhérer à un moment ou à un autre à de fausses croyances complotistes. Et en ce sens, là encore, la formation à l'esprit critique peut aider à se préserver de tout ça. Il n'y a pas que ça, parce que là, dans le cas du complotisme, on est dans un cas spécifique, hein, donc à savoir, enfin, donc on va avoir de fausses croyances qui nourrissent les théories du complot, certes, et le complotisme, mais le complotisme a de multiples assises. Je vais en donner un exemple, et on va bien voir que tout ne repose pas non plus sur l'individu. Ben, quand on éprouve un sentiment d'anomie, donc en fait ce qu'on appelle un sentiment de déstructuration sociale, eh bien on va avoir davantage tendance à adhérer aux théories qui en fait visent les élites, parce qu'on va les considérer pour partie responsables, ces élites de cette déstructuration sociale, en les suspectant, ces élites, d'être à l'origine de complots cachés, de nous manipuler, et en fait du coup l'effet réel, à savoir le fait, par exemple, que, je sais pas moi, la situation sociale d'un pays va mal, hein, il y a plus de précarité, il y a plus de chômage, on va avoir envie et raison pour partie d'en vouloir aux élites, mais on va avoir envie de les cibler, et donc ces théories du complot qui arrivent en désignant comme étant coupables ces élites, en fait, elles viennent répondre à aux questions que l'on se pose à l'envie que l'on a, voilà, de les responsabiliser. Donc on va être plus perméable à ce moment-là aux théories du complot. Donc il y a des éléments, donc pour ne pas tomber dans le complotisme, il va y avoir des éléments qui relèvent de notre responsabilité, et donc la formation à l'esprit critique fait partie des moyens que l'on a pour essayer de s'en préserver, mais ce n'est pas la seule possibilité de lutte. Il y a plein d'autres dimensions qui vont rendre compte du phénomène complotisme, comme le sentiment d'anomie que j'évoquais. Et donc, les conditions objectives de la société dans lesquelles on vit. Et donc, par exemple, là, pour le coup, que pourraient faire les institutions, quand je parle d'institutions, déjà, alors, de qui s'agit-il? Des politiques, des médias, hein, la presse, des scientifiques et des industriels. Par exemple, ceux qu'on va appeler Big Pharma, hein, des fois. Bon, ben, ces gens-là, peut-être, pourraient s'engager dans plus de transparence dans ce qu'ils font, de manière à ce qu'on puisse ne pas avoir de doute sur l'honnêteté de leur démarche, sur leurs compétences, leur professionnalisme, sur le fait qu'ils ne nous trompent pas, tout simplement. Et effectivement, on sait historiquement, c'est facile à trouver. Il y a déjà eu de vrais complots, que ce soit du côté des politiques il y a des chercheurs qui trichent des fois. Il y a des industriels aussi qui ont voulu vendre des choses qui étaient par exemple mauvaises pour notre santé parce que juste ça leur permettait de faire de l'argent. Même on pense ne serait-ce qu'au lobby du tabac qui disait qu'avant que le cancer le tabac ne provoquait pas le cancer.
Il y a des études aussi des études financées qu'on dit études scientifiques mais qui sont en fait financées par des industriels dans certains cas. Enfin, moi, je pense à un exemple qui m'est revenu en lisant ce livre, c'est la tendance du collagène marin en ce moment. Le collagène marin, et il y a énormément d'études aussi qui sont sorties et qui sont en train d'être débunkées sur les réseaux sociaux, justement, et qui, en fait, montrent que le collagène marin n'est pas plus efficace forcément pour la peau. C'est vendu comme un produit miracle pour le rajeunissement. Et en fait, certaines études sont en fait financées par les personnes qui vendent les produits.
Alors, quand il y a un financement de ce type, par exemple par l'industriel lui-même, il faut se poser la question, effectivement. Est-ce qu'on a un conflit d'intérêt et est-ce que, enfin, parce que oui, il y a un conflit d'intérêt et donc voilà, il faut creuser. Mais ça ne veut pas dire non plus que on doit systématiquement suspecter des malversations.
Bien sûr.
Parce que tout bêtement, la raison pour laquelle le grand industriel va financer des chercheurs, elle est simple, c'est que déjà, qui a les moyens de financer toute une équipe de chercheurs pendant des années? Donc, ce sont ceux qui ont de l'argent. Donc, les grands industriels sont bien placés pour. Deuxièmement, ces grands industriels ont intérêt à ne pas mettre sur le marché, notamment sur le plan pharmaceutique, des produits qui vont nous porter atteinte. Parce que si c'est le cas, ensuite, derrière, ça va se savoir. Je parle de façon vraiment... c'est un peu terrible de dire « ça va se savoir » comme si c'était leur seule intention d'éviter que ça se sache, mais... Donc, ça va se savoir que des personnes auront été affectées, atteintes, donc on leur aura porté préjudice, et ils auront derrière à rendre des comptes. Donc, admettons qu'un produit soit supposé être efficace, c'est bien d'essayer de voir de quelle manière on peut contrôler son utilisation, vérifier s'il y a des effets secondaires, ça, et qu'on demande à des gens qui ont la compétence, à des chercheurs, à des scientifiques, déjà leur poser la question, est-ce que c'est efficace ou pas, ensuite voir comment ça peut être développé et comment ça peut être suivi du point de vue de, par exemple, des effets secondaires. Donc voilà, la suspicion doit pas être automatique.
Oui.
On doit se poser la question, mais c'est pas parce que c'est une grande entreprise qui finance un laboratoire qu'automatiquement qu'on ne peut pas faire automatiquement confiance.
Oui.
Ce n'est pas parce qu'une grande entreprise finance un laboratoire qu'on doit automatiquement considérer que ce que produit le laboratoire n'est pas fiable.
Et après, ça engage aussi, ça implique de juger soit par soi-même l'échantillonnage qui a été pris en compte aussi dans les recherches.
Ça a été fait dans les bonnes formes, qu'il n'y a pas eu de triche, et puis les résultats, si ça a été versé dans le champ de la science, l'idéal c'est que d'autres équipes de recherche que celles qui dépendent du laboratoire essaient de reproduire ce qui a été obtenu pour voir si on obtient la même chose. Donc là, par exemple, quand il va y avoir un vaccin qui est développé, si ce même vaccin ensuite il est développé par d'autres équipes qui vont faire des tests aussi, et qu'en fait toutes les équipes, indépendamment de leurs attaches financières, institutionnelles, trouvent les mêmes résultats, on peut considérer que les résultats sont fiables, scientifiques.
Et justement, pour revenir aux réseaux sociaux et aux découvertes scientifiques qu'on peut voir apparaître des fois dans les médias, sur les réseaux sociaux, je pense à, par exemple, le cas d'Alzheimer. Des fois, on a des actus sur Alzheimer. On a découvert... la solution miracle pour contrer Alzheimer. Ce que tu relates aussi dans le livre, c'est le côté où quelle est la recherche derrière, en fait, et on va pas forcément aller rechercher, on va prendre l'information telle qu'elle est et pas forcément rechercher quelle est la recherche qui a été faite derrière.
En fait, on pourrait se représenter la recherche comme un mode de fonctionnement qui consisterait à retrouver un trousseau de clés dans une pièce et à se dire « Oh, quelqu'un a trouvé le trousseau de clés, c'est génial, c'est bon !» Et donc, quand on dit on a trouvé le gène qui, permettrait de se débarrasser de l'Alzheimer, sauf qu'en fait, c'est pas ça la recherche. La recherche, ça va être le fait de dire qu'on a une pièce fermée et qu'on essaie de faire une enquête sur la base des bruits que l'on entend pour essayer de situer le trousseau de clés. Donc, on l'a pas trouvé de façon définitive. Et du coup, on va dire que comme la pièce est fermée et qu'on doit écouter les sons qui se dégagent de la pièce, en fait, on peut avoir différents outils pour essayer de détecter le son. Il faut que ces outils soient capables de faire la différence entre les différents sons qui peuvent émaner de la pièce. Est-ce que c'est la chaudière qui s'y trouve? Est-ce que c'est le trousseau de clés qui renvoie un écho particulier? Et donc, une et seule étude, des fois, ne suffit pas parce que il faut vérifier qu'elle a été bien conduite, que les outils qui ont été utilisés sont les bons. Et le problème, c'est que pourquoi ça sort dans la presse à ce moment-là? Ben, d'abord parce que les journalistes ne savent pas nécessairement comment fonctionne la science. Donc, eux, ils vont voir peut-être des fois un article qui sort et ils vont dire, bah, c'est acquis, hein, donc on peut en parler. Ensuite, parce qu'il y a eu cette recherche de sensationnalisme dans la presse, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça permet de faire des vues, ça permet de vendre. Et donc, dans le cadre de leur métier, les journalistes aussi cherchent à tout prix à faire de l'auditorat, parce qu'en fait c'est de ça dont ils vivent. Donc ça ne veut pas dire que ce sont leurs seules intentions, mais ils en ont besoin. Donc voilà,
il y a une question de déontologie aussi derrière, une déontologie journalistique qui n'est pas forcément respectée par manque de temps, par besoin aussi de créer de l'émotionnel sur les réseaux, parce que c'est ce qui fonctionne aussi.
Ouais. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller regarder la charte de déontologie des journalistes. Moi, j'ai pris connaissance de cette charte pendant la période Covid. Et quand j'ai lu la charte, j'en avais presque les larmes aux yeux en disant « Mais si seulement les journalistes, effectivement, pouvaient mettre en œuvre tout ce qui est énoncé au sein de cette charte. » Parce qu'en fait, elle va, par exemple, nous demander... de mémoire, hein, parce que donc, j'ai lu ça il y a quelques années maintenant, mais elle va nous demander de ne diffuser que des propos qui sont justes. Et donc, rien que, on en parlait tout à l'heure, rien que les régimes détox, bon, là, il y a un souci. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire qu'ils ne sont pas compétents. Bah oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, si vraiment il fallait mettre en œuvre cette charte, il faudrait faire des études plus poussées, systématiquement, avant de s'exprimer sur le sujet qui va être le sujet de votre article. Moi, je veux bien que des fois, dans une conversation comme ça, on puisse se tromper parfois, on n'est pas... Mais quand on élabore un article sur la détox, on ne peut pas passer, par exemple, à côté du fait que la détox, ça ne soit pas valide, ça ne serve à rien et que ce soit juste un produit marketing. Bon, mais là encore, je ne jette pas non plus la pierre aux journalistes, à tous les journalistes, parce que on l'évoquait, ils sont eux-mêmes aussi victimes, pour partie en tout cas, d'un manque de formation, etc., etc.
Et puis, je ne vais pas trop m'étaler non plus, mais c'est vrai qu'il y a une polarisation des médias et les réseaux sociaux aussi créent l'effet de halo. Ça, c'est vraiment un effet intéressant aussi, peut-être que je voulais aborder, c'est qu'on s'enferme dans des bulles cognitives où on va aussi rechercher une information qui nous plaît et s'enfermer dans des bulles cognitives en fait, informationnelles. Qui font qu'on a un peu du mal aussi à sortir de ça. Et je voulais rebondir là-dessus par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aux théories du complot, du coup. Comment définir la théorie du complot et,
Mais déjà, si tu veux, une théorie du complot est une théorie qui propose de rendre compte d'un événement majeur sur la base d'explications qui, alors, soit en elle-même, soit dont certaines prémices sont fausses, soit aussi ça peut être l'articulation des prémices qui sont fausses, et alors que il existe des explications, une explication officielle pour compte d'événements majeurs, et au niveau de la teneur de ces explications, en général, sont ciblées, visées, les élites dont on parlait tout à l'heure, ou des groupes, en étant accusés de fomenter un complot qui serait caché Et puis voilà, puis des fois ce sont aussi des groupes minoritaires qu'on n'apprécie pas. Hein. Par exemple, dans la théorie du grand emplacement, là cette fois-ci ça va être les étrangers qui projettent de venir nous remplacer. Quand on pense qu'on va nous cacher l'existence d'extraterrestres, donc on va suspecter les gouvernements, Big Pharma, les vaccins, on va suspecter l'industrie pharmaceutique. Voilà, c'est ça, donc une théorie du complot.
Oui, et par rapport à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, qui me paraît un enjeu qui te touche très personnellement, parce que c'est ton combat aussi par rapport à la vulgarisation sur l'esprit critique et par rapport à la zététique. Quel est l'enjeu en fait derrière la liberté d'expression sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est le traitement de l'information, finalement, on l'a vu pendant tout cet entretien, c'est vraiment un enjeu communicationnel, un enjeu relationnel, et la liberté d'expression sur les réseaux sociaux donne lieu aussi à des polarisations d'opinion variées et aussi donne lieu à l'émergence de justement des fake news et théories du complot. Donc quel est l'enjeu de cette liberté d'expression, clairement ?
Bien, quand on parle de liberté d'expression, on peut avoir tendance à penser qu'il s'agit tout simplement de notre liberté, en général. En fait, on se trompe, parce que la liberté d'expression, quand elle est totalement débridée, c'est-à-dire quand les gens peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent sur n'importe quoi, ils peuvent aussi dire n'importe quoi, et parce qu'ils disent n'importe quoi ou parce qu'on est exposé à du grand n'importe quoi, ça peut atteindre d'autres formes de liberté. Ça peut atteindre d'autres dimensions de nos libertés. Je vais donner un exemple. Si tout simplement on est exposé à des arguments qui vont dire que... je repars sur la naturopathie. La naturopathie, c'est bien. Il est possible qu'on se laisse influencer et qu'on choisisse d'aller voir un naturopathe. Et donc, en faisant ça, on n'aura pas joui pleinement de notre liberté de décision. Parce que la décision que l'on aura prise, elle ne relèvera pas d'un choix libre et éclairé. C'est le terme éclairé qui est important. On aura pris une décision sur la base de mauvaises prémices, de fausses croyances. Et donc, ça aura des conséquences potentiellement négatives pour nous. Parce qu'on va être mal conseillé, on va aussi avoir des représentations de ce qui relève de la nutrition qui sont fausses.
C'est l'exemple bien connu aussi de Steve Jobs aussi, qui a fait le choix de thérapie non conventionnelle et qui malheureusement est mort. Ouais.
Ouais, du fait d'un retard de traitement, alors qu'il avait un cancer dont il aurait pu être guéri parce qu'il avait été détecté au stade précoce. Donc, ce qui montre bien qu'on peut être riche, intelligent, parce que bon, je suppose que Steve Jobs était intelligent, hein, et pour autant se laisser influencer, dans des directions qui ne sont pas les bonnes, et puis on peut aller jusqu'à perdre la vie. Et d'ailleurs, il y a une différence entre l'intelligence et l'esprit critique.
Oui.
L'intelligence peut se définir comme la capacité à traiter l'information rapidement. Il n'y a pas que ça, mais on peut se la représenter comme ça. Elle se mesure par le QI. Mm-hmm. Et donc, les personnes les plus intelligentes, on peut considérer qu'elles vont aller un peu plus vite que les autres. Et donc, être plus intelligent consiste à aller plus vite, mais le problème, c'est que si les prémices à partir desquelles on raisonne ne sont pas les bonnes, si par manque de culture générale, on n'a pas tous les éléments dont on aurait besoin pour ensuite poser les équations, l'équation qui correspond au problème, on ira vite, mais on ne pourra pas tirer les bonnes conclusions. Donc, il y a des personnes très intelligentes, qui peuvent être très intelligentes, mais parfois qui sont susceptibles de croire n'importe quoi, tout simplement parce que, peut-être, voilà, elles n'ont pas les éléments de base sur lesquels elles devraient s'appuyer. Donc, peut-être qu'elles auraient pu faire plus de recherches sur le sujet, voir aussi le pour, le contre, premièrement. Et deuxièmement, imaginons qu'elles aient ces éléments en tête, qu'elles aient plein d'informations en tête. Si elles ne se sont pas formées à l'esprit critique, si elles n'arrivent pas, si elles ne connaissent pas les pièges dans lesquels nous pouvons tomber lors du traitement de l'information, il est possible qu'elles donnent plus d'importance à un élément d'information qui, par exemple, sera faux et que là encore, ça vienne biaiser leur conclusion, qu'elles ne tirent pas les bonnes conclusions. Mmh. Voilà. Donc après, on observe une corrélation positive entre intelligence et esprit critique, mais donc l'intelligence ne suffit pas. Mmh. Ce sont deux concepts bien différents et il y a des personnes qui peuvent aller moins vite, être un peu moins intelligent, mais oui. Être capable de développer un très bon esprit critique, bah, tout simplement par l'exercice par la mise en œuvre de ce qui peut nous aider à déterminer le statut d'une information.
Très bien. Et je voulais rebondir aussi là-dessus. Du coup, admettons, demain en soirée, je rencontre Roger, bac plus 9, bac plus 10, que sais-je, très intelligent, et il me dit qu'il croit que la Terre est plate. J'engage une discussion avec, je commence un peu à m'énerver, mais j'essaye un peu de me contenir. Quelle est la meilleure stratégie à avoir finalement quand on, si je peux parler de stratégie ou de façon de communiquer avec des personnes qui sont qu'on soupçonne être complotistes ou croire en des choses complètement farfelues.
Alors déjà, il n'y a pas une seule stratégie, il pourrait y en avoir plusieurs, et ça va dépendre aussi de la personnalité de Roger. En matière d'esprit critique, ce qui va favoriser le développement de l'esprit critique, c'est le fait d'être curieux, c'est l'ouverture d'esprit, ça va être le désir de le goût de la vérité, le désir de vérité, donc le fait de vraiment avoir envie de savoir ce qui est vrai ou pas. Puis il y a d'autres dimensions. Si Roger a vraiment envie de savoir ce qu'il en est, peut-être qu'il va prêter davantage l'oreille au point de vue contradictoire. Mais si lui n'a pas envie, parce qu'en fait, ça lui fait plaisir de penser que la Terre est plate, il ne sera pas perméable à l'échange. Donc, je dirais que dans tous les cas, avant de s'engager dans la perspective de changement de son contradicteur, connaître son intention, c'est important. Est-ce que cette personne, elle est vraiment ouverte à l'échange? Est-ce qu'elle a envie éventuellement de donner une chance à des points de vue contradictoires? Si c'est le cas, donc il va être très important de créer, on va dire, un contexte d'échange qui soit positif. On va par exemple pouvoir soi-même montrer à l'autre qu'on est également dans de bonnes intentions. Donc, on peut s'inscrire dans une démarche d'écoute active. Donc, on écoute les arguments de l'autre. D'ailleurs, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais comme par exemple, essayer de s'engager soi-même dans une humilité épistémique et une humilité relationnelle. Mm-hmm. Alors, humilité épistémique, l'exemple est extrême, c'est celui de Roger qui croit à la Terre plate, mais des fois, si ce sont des positions simplement contre lesquelles nous sommes, après tout, nous pouvons peut-être supposer que c'est nous qui pouvons avoir tort, mm-hmm. à un moment donné, sur le fond. Donc, prêter l'oreille aux arguments de fond de l'autre, c'est important, le faire avec sincérité pour les évaluer. Ça ne veut pas dire que du coup, on va abandonner tout de suite ses propres positions de fond, mais on laisse une chance au point de vue de l'autre. Au niveau relationnel aussi, on donne une chance à l'autre d'avoir raison, lui en tant que personne, et donc on va pas le traiter avec mépris, on va pas prendre, on va pas dire ce que tu es stupide, enfin ouais. Tu es stupide de penser ça. Bon. Donc voilà.
Parce qu'il y a pas, il y a justement un risque d'effet boomerang quand on contredit la personne qui pense autrement. L'effet boomerang, enfin. En quoi ça peut être aussi un risque de renforcer la croyance de l'autre personne ?
Alors, l'effet boomerang décrit le phénomène selon lequel, quand on attaque les croyances d'une personne, elle va s'extrémiser.
Oui.
Sauf que ça fait partie des paramètres que j'évoquais quand je disais que c'était très complexe, c'est que tout ça dépend du degré de... D'accord. D'attachement de Roger à sa croyance. S'il est déjà radicalisé, s'il est extrémisé, une attaque frontale, une attaque directe de sa croyance peut le renforcer encore. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire et qu'on ne pourra jamais dire qu'on n'est pas d'accord. Mais il peut y avoir d'autres façons de procéder. Il y a par exemple ce qu'on appelle, il y a une méthode qui s'appelle l'entretien épistémique. Plutôt que de dire à Roger, tu as tort de penser que la Terre est plate, on pourra lui demander sur quoi tu te bases pour affirmer, pour penser que la Terre est plate. Et avec Roger, on peut lui proposer d'examiner la solidité de ses points d'appui, des points d'appui de son raisonnement. Et l'idée, dans le cadre de l'entretien épistémique, c'est de voir dans quelle mesure les prémices sur lesquelles on s'appuie sont solides. Et puis, si Roger a tort, ben, peut-être de fragiliser les piliers de sa croyance, et puis peut-être de l'aider, du coup, non pas forcément à changer totalement de croyance, mais peut-être que dans un premier temps, il y croira un peu moins. Hein, parce qu'on passe pas d'une position... extrémiste à une autre position extrémiste. Par exemple, ça peut se faire en douceur, ça peut se faire parfois, ça peut être un peu plus rapide. Et moi, je trouve que c'est intéressant comme méthode parce que celui qui pose des questions, en fait, il fait quoi ? Ben, il ne va finalement qu'interroger les fondements. On ne fait pas que ça en réalité, parce que d'ailleurs, souvent, quand cette technique a été utilisée, dans les faits, ça a été dans la volonté d'atteindre son objectif, de faire changer l'autre. Hein, voilà. Mais par contre, nous engager dans cette démarche, on pourrait tout simplement se dire qu'elle représente un outil utile pour, en toute honnêteté, partir interroger les fondements et pour ensuite peut-être même soi-même se rendre compte que en fait c'est nous qui étions dans l'erreur.
Mmh. Donc commencer par là, interroger les fondements d'abord. Enfin ça peut être sur avec cette théorie là, mais ça peut être aussi en politique, ça peut être sur différents sujets, même le réchauffement climatique, j'imagine.
Je pense que ce qui est bien, c'est de connaître aussi ce qui relève de l'influence sociale, de prendre connaissance de la multiplicité des paramètres qui vont faire qu'une personne est susceptible de changer de point de vue. Et ensuite, soi-même, quand on se rend en situation, eh bien, en ayant pris connaissance de la situation, d'essayer d'adapter sa communication à la situation qu'on a en face de soi. Parce que, vous voyez, sur les réseaux sociaux, on va souvent entendre des gens, des psychologues ou des influenceurs qui vont dire « Alors moi, je vais vous dire quelles sont les cinq choses à faire quand vous êtes dans ce cas-là. Oui. » Et en ce qui concerne, je sais que ça reste, du coup, c'est peut-être moins satisfaisant intellectuellement, mais je ne peux pas me contenter de façon réductrice de dire, vous devez faire ça, bien ça sûr. Et ça. Mm-hmm. Par contre, oui, il y a plein de recommandations qu'on pourrait offrir, comme par exemple le fait d'essayer tout au long de l'échange de maintenir un lien positif, parce que rester en relation, que la personne ait envie de poursuivre l'échange pour qu'on puisse partir creuser. Après, y a des choses que l'on a déjà évoquées, le fait aussi de se centrer sur le fond, de faire en sorte qu'il y ait une faible saillance des enjeux identitaires. Mmh. Hein, donc ça, du coup, je répète, mais peut-être que c'est en même temps tellement utile et important. La question de l'humilité aussi, donc là, j'en ai touché deux mots, mais cette posture-là, elle est essentielle d'un point de vue épistémique, hein, le fait de ne pas se prêter, une supériorité, hein, et d'être capable de juger avec honnêteté, en essayant de mettre de côté ses propres stéréotypes, croyances, certitudes, juste même ne serait-ce qu'un instant, pour laisser une chance au point de vue de l'autre. Et je pense que ceux qui sont aussi en face le ressentent, et ça permet d'autant mieux de les engager à ouvrir une porte pour qu'ils changent eux-mêmes.
Tout ça demande du temps, hein, ce dont on n'a pas forcément ce temps-là quand on est sur les réseaux sociaux tous les jours, quand on ouvre Facebook, Instagram, Twitter, enfin X, c'est pas forcément facile, mais en tout cas c'est super intéressant. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de l'entretien. Je sais pas.
Juste oui. Parce que ce temps, en fait, nous le passons déjà. Nous avons du temps puisque quand on regarde le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux, ça se compte en nombre d'heures. Donc, ça ouais. pourrait être intéressant, ce temps que nous passons déjà, que nous arrivons déjà à débloquer, eh bien, qu'on l'utilise pour partie, au moins un petit peu, hein, pour avancer dans des directions qui nous sont utiles en plus d'arriver. Parce que c'est du temps qu'on va transformer de façon positive, etc. Parce qu'après, quand on sera de nouveau pendant peut-être plusieurs heures sur les réseaux sociaux, on pourra mieux juger de la qualité des informations auxquelles nous nous exposons et qui nous influencent, parfois en dépit de nous-mêmes.
Et donc changer nos usages aussi au fur et à mesure, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, on ne va pas tout de suite forcément être capable de tout voir de façon transparente, mais être capable ensuite, on sera sans doute davantage capable de se dire, tiens, là, ça, faut que je vérifie.
Oui, parce que l'enjeu, il est clairement démocratique. Il en va aussi de nos libertés. Hein, tu le rappelles dans cet ouvrage Au cœur de l'esprit critique. D'ailleurs, un nouvel ouvrage est paru en 2025, dont le titre est, je l'ai sous la main, Complotisme et manipulation, petit guide pour déjouer les fausses croyances, fake news et autres fadaises, que tu as coécrit avec Alexander Samuel. Si tu pouvais nous en dire un petit mot, et peut-être qu'on en parlera dans un second épisode du podcast, et ensuite on va pouvoir se quitter en musique.
Avec plaisir, merci. Oui, vous évoquiez cette question de la transversalité. Les fausses croyances délétères peuvent toucher tous les champs de notre vie. Hein, le champ de la santé, de la politique, de l'école. Hein, quand on a des enfants aussi, on veut bien s'occuper de ses enfants. Il y a plein de gens qui viennent donner des recommandations sur comment il faut s'y prendre. Et on sait que dans le tas, il y a des choses qui sont justes, des choses qui sont fausses et des choses qui peuvent être même dramatiques. Parfois. Nous avons des besoins. Et donc, sachant que les fausses croyances auxquelles nous sommes exposés sont susceptibles de nous amener à adhérer à des points de vue complotistes ou à des points de vue qui ne sont pas justes, ça pose vraiment un problème au niveau de la démocratie. Quand on a un parti politique qui va instrumentaliser des fausses croyances, on a par exemple des partis politiques qui peuvent tirer profit des accusations complotistes qui visent le gouvernement en place, parce que ces partis qui ne sont pas au pouvoir vont espérer que critiquer le gouvernement en place va le fragiliser, et donc par voie de fait, ça augmente la probabilité qu'ensuite prennent eux-mêmes le pouvoir lors des prochaines élections. Mmh. Donc, utiliser les théories du complot existantes pour faire peur, accuser par exemple le gouvernement en place d'être complice de Big Pharma, ils vont faire peur aux gens et ils ne font parfois que servir leurs intérêts personnels.
D'accord, ok. Bah écoutez, merci Séverine Falkovitch. Je rappelle votre travail, votre ouvrage dont il était question dans cet épisode d'octobre, Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations, paru en 2023 aux éditions Erol. Donc merci beaucoup. Et nous, on va se quitter en musique avec Léo Ferré qui reprend un fameux poème de Louis Aragon qui me semble tout particulièrement d'actualité et que j'affectionne beaucoup, beaucoup. On enchaînera enfin pour terminer avec une petite chanson méconnue de Lady Gaga, à nouveau, Grigio Girls, qui apparaît dans la setlist de la tournée Mayhem. Donc merci beaucoup à celles et ceux fidèles à l'écoute de Curiosity et toujours navrés pour les allergiques de la pop mainstream. Aussi, si vous souhaitez aborder un ouvrage en particulier ou si vous aimeriez qu'on aborde un sujet en sciences humaines, de votre choix, n'hésitez pas à me contacter à une adresse créée pour ce but-là, dans ce but, curiosityprimitive@gmail.com, donc comme ça se prononce, curiosity avec un Y et primitive@gmail.com. On essaiera de se faire ça tout bientôt et j'ai hâte de vous retrouver en novembre. Ciao, ciao!
C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou mon drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur.
Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
I was 23, she was 35. I was spiraling out, and she was so alive. A Texas girl, real strong, taught me this strong song. So when I start to fall, she says, let your teardrops fall on the piano. Cause it's a fired up world.
Killer.
Fantasy.
I'm a killer, and when you
When